Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine. Merci d'écouter la radio Inzamba Gateka Kawe et bienvenue dans la rétrospective de l'actualité du 7 au 13 mars 2022 à la présentation Alexandre Niungeko.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons par cette macabre découverte en commune de Buganda de la province Chibitoke. Trois corps sans vie en décomposition ont été retrouvés vendredi dans la localité d'Okabura Anhwa. Ils ont été enterrés précipitamment sur ordre de l'administrateur de cette commune sans avoir été identifiés, ce que regrettent les habitants de la localité, Georges Nimenya.
Ce sont des cadavres de deux hommes et une femme ligotés qui ont été découverts à la 7e transversale sur la colline d'Okabura Anhwa de la commune de Buganda. Les faits ont eu lieu ce vendredi vers 11h du matin, selon notre source sur place.
Nous avons vu le chef de colline, en compagnie de la police et des agents de la Croix-Rouge, qui désinfectaient l'endroit où on a découvert ces trois cadavres ligotés. Ils étaient en état de décomposition. Par après est venu l'administrateur communal à cet endroit à Kabura Anhwa. C'est sur la 7e transversale. Réellement, ces cadavres ont été découverts à cet endroit.
Les habitants de la localité sont inquiets. Ils déplorent l'apparition fréquente des cadavres et qui sont enterrés à la hâte après les découvertes de ces temps-ci. Ils estiment que les enquêtes indépendantes devraient être menées avant l'enterrement.
Nous sommes inquiets de ces découvertes macabres. Chaque mois, nous découvrons deux ou trois cadavres, et même cinq. Cela devient de plus en plus fréquent. Ce qui nous inquiète souvent est qu'ils sont enterrés rapidement, sans faire d'enquête. Nous demandons à ce qu'il y ait chaque fois des enquêtes afin que la vérité soit étalée au grand jour. Aussi, nous remarquons que ce sont des gens qui sont tués ailleurs, qui ne sont pas de notre localité. Il faut que la justice intervienne et que les leurs soient mises au courant. Nous avons souvent peur de ce phénomène.
Les habitants de Kabura Anhwa qui n'ont pas pu identifier ces victimes estiment qu'elles auraient été tuées ailleurs et amenées dans cette localité. La rédaction de la radio Inzamba a cherché l'administrateur de la commune de Buganda, Pamphile Hakizimana, pour qu'il nous éclaire sur l'origine de ces cadavres, mais son téléphone était éteint.
Merci Georges. Puis ce nouveau rapport accablant sur de graves violations des droits de l'homme au Burundi. Il a été publié par l'Initiative pour les droits de l'homme au Burundi au cours de ce mois de mars. Cette organisation appelle le gouvernement à traduire en justice les auteurs de ces violations déjà identifiées par ce même gouvernement. On écoute Karina Tarsakian et les chercheuses à l'Initiative des droits de l'homme au Burundi.
Le rapport met l'accent sur trois cas où les victimes sont décédées des suites de leur torture, ainsi que sur un cas de disparition forcée où la victime est présumée morte. Ce ne sont pas des cas isolés. Nous avons établi l'identité de plus de 55 personnes torturées en 2021. De nombreux autres ont été enlevés et détenus au secret pendant de longues périodes. La plupart de ces victimes étaient des membres du parti d'opposition, le CNL, ou des personnes accusées de collaboration avec des groupes armés. Il y a tout de même quelques signes d'espoir, par exemple à la suite du décès en décembre du membre du CNL Augustin Matata, qui avait été torturé par le SNR. Le président a déclaré que c'était un crime grave et que la personne qui l'avait torturé devait être punie de façon exemplaire. Le tortionnaire en question, c'est l'agent du service de renseignement Gérard Ndayisenga, qui a été arrêté et qui se trouve actuellement en prison. Notre rapport documente son long passé cruel et violent depuis au moins 2017, ainsi que le bilan du commissaire de police Moïse Arakaza, responsable de nombreux actes de torture à Kabezi, en province Bujumbura, et avant cela à Mugamba, en province de Bururi. Ces deux officiels semblent être tombés en disgrâce depuis décembre. C'est donc, à notre avis, un moment opportun pour les autorités de les traduire en justice. Et dans le cas de Ndayisenga, non seulement pour le rôle qu'il aurait joué dans la torture d'Augustin Matata, mais également pour les nombreux autres crimes qu'il a commis dans les différents postes qu'il a occupés au SNR. Le rapport décrit également la recrudescence d'exactions commises par des imbonerakure dans plusieurs provinces, ainsi que la poursuite de restrictions à la liberté d'expression. En particulier, la condamnation à 5 ans d'emprisonnement de l'avocat et ancien défenseur des droits humains, Tony Germain Kina, après un procès inéquitable. Nous demandons à l'Union européenne en particulier de saisir l'occasion depuis la levée de ces restrictions à la coopération, pour insister sur des actions concrètes de la part du gouvernement burundais en matière des droits humains.
Suite de cette rétrospective, avec la réouverture lundi dernier des frontières entre le Rwanda et ses pays voisins, elles étaient fermées depuis près de 2 ans. Le trafic entre le Rwanda et ses pays est redevenu normal, sauf au poste frontière avec le Burundi, où la réouverture a été à sens unique. Le point avec Jean-Marie Ndabashins.
La mesure du Rwanda d'ouvrir ses frontières avec ses pays voisins tombée le 4 mars 2022 et devrait commencer à être mise en application à partir de ce lundi 7 mars. Ça a été chose faite, puisque ses frontières fonctionnent bel et bien de nouveau depuis aujourd'hui, sauf côté du Burundi qui n'a pas encore ouvert ses frontières. Ailleurs, le trafic est désormais normal. C'est la question d'ouvrir les frontières du Burundi avec le Rwanda. Le ministre des Affaires étrangères du Burundi, Albert Shingiro, a déclaré aujourd'hui sur la radio nationale du Burundi que ce n'est pas encore le moment. Il a précisé que la question est en discussion.
De notre côté, le jour où on prendra la mesure d'ouvrir les frontières, on va vous le communiquer. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas encore pris la décision. Comme vous le savez, on est en pourparler avec le Rwanda pour renormaliser nos relations qui ne sont pas au bon fixe depuis 2015. Le processus est avancé, mais n'est pas encore terminé. Aussitôt le travail terminé, nous allons vous le dire. Nous vous dirons également quand nous prendrons la mesure d'ouvrir les frontières.
Vous saurez que le Rwanda avait fermé ses frontières avec les pays étrangers, y compris le Burundi, dans le contexte du Covid-19 le 22 mars 2020. Mais bien avant, les relations entre le Burundi et le Rwanda étaient devenues tumultueuses depuis la crise de 2015.
Pourquoi le port du masque est-il obligatoire pour les personnes vaccinées? En l'état des connaissances, les vaccins aujourd'hui disponibles ou en cours de développement réduisent la sévérité des symptômes. La contagiosité diminue également, mais ne disparaît pas totalement. Les gestes barrières, dont le port du masque, restent donc nécessaires même après la vaccination.
Ceci est un message de la radio Inzamba, Agathe Kakawe.
Le contrat entre l'État du Burundi et la société Burundi Musongati Mining, la BMM, a été conclu en 2014 conformément au code minier burundais, bien qu'il résilié par le récent décret du président Évariste Ndayishimiye. Des sources des dignitaires de l'époque estiment que le permis d'exploitation du nickel de Musongati était pourtant clair sur le rôle de chacune des parties au contrat. Des précisions avec Benny Axelakan.
Le permis d'exploitation du nickel de Musongati par la société BMM a été annoncé pour la première fois en 2014 vers la fin du deuxième mandat de Pierre Nkurunziza. Il s'agit d'un contrat entre la société Burundi Musongati Mining avec l'État du Burundi pour un accord d'exploitation de 25 ans avec possibilité de renouvellement de 10 ans selon le ministre de l'énergie et mines de l'époque, l'ingénieur comme Manirakiza, qui l'a annoncé dans une conférence de presse au mois de juin 2014 en précisant que les deux parties ont signé une convention qui accordait 85% des actions à la nouvelle société et 15% seulement revenait à l'État du Burundi. Il était encore convenu que dans un premier temps, la société BMM va effectuer des activités de délocalisation et de paiement des indemnisations de la population qui vit sur le site. Ces activités n'ont jamais été honorées selon les sources de la population. Les activités se sont limitées à l'exploration des échantillons du nickel sur ce site de Musongati pendant les 8 ans d'exercice. Le décret du président Évariste Ndayishimiye qui résilie ce contrat n'a pas fait mention des raisons à l'origine de cette décision, mais son premier ministre Alain Guillaume Wunyoni avait déjà manifesté la colère de son gouvernement au sujet de la gestion des contrats avec les sociétés minières. L'ancien deuxième vice-président de la République, qui s'exprimait sur ce sujet dans le journal Iwachu, Jarve Rufyikiri, a indiqué que l'accord a respecté le code minier burundais, une bonne législation, mais difficile dans sa mise en application, selon cet ancien dignitaire en charge du secteur de l'économie. Il souligne l'influence de l'ancien président Pierre Nkurunziza dans le dossier en précisant que BMM louait parfois des jets pour les missions du président à l'étranger alors que cela n'était pas prévu par la convention. L'État du Burundi était lié par un contrat avec la société BMM. Sa résiliation pourrait amener des procès contre l'État selon toujours les propos de l'ancien vice-président de la République.
À présent, l'avis d'un expert en droit international à propos de la résiliation de contrats avec une société multinationale. Selon Maître Yves Runyagou, elle est finie par un arbitrage international. On l'écoute.
Ici, on doit s'attendre à ce que cette société traîne l'État du Burundi devant l'arbitrage international. Ici, je dois dire qu'il y a à craindre, étant donné que durant même la phase des négociations, le gouvernement semblait avoir été dans une position de faiblesse. Cette multinationale a pu insérer une clause d'élection de force, comme on dit, par laquelle peut-être l'arbitrage sera effectué au niveau d'endroits un peu reculés par rapport à Bujumbura. Là, je crains que ça pourrait peut-être être au niveau de Singapour, de Hong Kong comme ça. On peut présumer que ce sera déjà une bataille pas facile pour le gouvernement burundais, mais espérons qu'ils ont eu le temps d'y réfléchir parce que avec le conseil des ministres qui avait analysé ce projet de résiliation justement, j'ai cru comprendre qu'ils avaient sollicité un avis juridique. Espérons que cet avis juridique leur aura été donné et leur aura donné toute la lumière sur ce qui devait être fait. Mais d'emblée, c'est une bataille judiciaire et dans une bataille, on n'est jamais sûr à l'avance de qui va réellement l'emporter.
Et pour clore cette rétrospective de l'actualité, les utilisateurs des motos, vélos et tricycles, communément appelés tuk-tuk, ont bénéficié de 10 jours de grâce pour continuer à rouler dans toutes les communes de la mairie de Bujumbura. Le temps pour les propriétaires de ces engins de les faire enregistrer. La mesure qui devait entrer en vigueur à partir du 11 mars sera donc appliquée dès le 21 mars prochain. Suivez plutôt le ministre de l'Intérieur, Gervais Ndirakobucha. Il est exprimé au cours d'une rencontre avec la police et l'administration municipale.
Comme on a dit que cette mesure est technique et que les techniciens nous ont demandé 4 jours pour faire l'enregistrement, faites-le. Il est d'une grande utilité. Je lance un appel à ces conducteurs concernés par la mesure de se munir de tous les documents au moment de l'enregistrement. Celui qui a vendu sa moto, tuk-tuk, mais qui n'a pas encore fait de transfert, qu'il le fasse le plus rapidement possible pour éviter toute conséquence, car il faut que l'enregistrement soit fait après le transfert. Sur la carte rose, on doit vérifier que la photo et le nom sont conformes avec ce qui est marqué sur la carte d'identité de celui qui fait l'enregistrement. On ne mandate pas pendant l'enregistrement. Ceux qui n'ont pas encore fait l'enregistrement ont 4 jours pour le faire. Celui qui sera attrapé avec une moto ou tuk-tuk non enregistrée sera considéré comme un malfaiteur. À cause de délais liés au transfert, les techniciens avaient proposé 4 jours, mais moi, je vous donne 10 jours.
Aba techniciens arrivent à sa dîne, Mugabo Jewe, Nandi Chumi.
Voilà, c'est ainsi que se referme cette rétrospective de l'actualité de la semaine écoulée. Ce 13 mars, merci de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end. Au revoir et à la prochaine.